trop.
Vous nous dites n'ayez pas peur.
Attendez, bah bien sûr que non, n'ayez pas peur. Mais il n'y a enfin, aucune c'est... raison d'avoir peur.
Non, non, écoutez, soyons clairs. L'alerte n'était due, quoi que peuvent en dire certains, qu'à une panne de la haute d'aspiration des cuisines de la cantine. Alors vous voyez qu'on est loin de la fissure dans le réacteur et autres apocalypses.
Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Laurent, comment vas-tu ce soir ?
Ça va bien, Delphine.
Alors ce soir, dans ce Canu Info du jeudi, nous partirons en Arabie Saoudite. Nous parlerons de la Tunisie et d'un gars qui vient de prendre un an de prison pour homosexualité. Nous parlerons du Burkina Faso et de ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières heures. Nous parlerons d'une grève au musée d'Orsay. Nous reviendrons sur Anish Kapoor et son Dirty Corner. Ah, et puis nous parlerons de cette affaire chez les profiteurs. Nous parlerons de Volkswagen, Das Pipo. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah là là, c'est chouette cette affaire. Et puis nous aurons évidemment une petite actu plus radioactive, mais ce soir, en introduction de ce Canu Info, nous avons décidé d'accueillir les représentants d'Acrimed 69. Nous allons revenir avec vous sur une soirée qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps à la MJC Mon Plaisir. Nous allons donner suite à cette soirée qui est organisée par le comité Vigilance 69 et avec vous, Pascal et Vincent. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Nous allons aborder la question des médias et de l'extrême droite. Alors, sous deux angles, on va parler de la fachosphère, hein, qui est quand même... on en parle souvent, mais c'est vrai qu'elle est très importante et elle commence quand même à nous poser quelques soucis. Et puis, on parlera du rapport des médias et de l'extrême droite. Hein, vous savez, ces médias, ces grands médias classiques qui nous parlent de l'extrême droite continuellement, avec des méthodes un peu différentes. Et on parlera avec de ça avec toi Vincent et plutôt de la fachosphère avec toi Pascal. Mm-hmm. Alors je vous laisse, qui a envie de commencer?
Ok, bonsoir. Donc alors, effectivement la question de la fachosphère, tu l'as dit, elle est rarement évoquée, pourtant Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce terrain. Alors il faudrait peut-être dire deux petites choses en préalable. La première, c'est que dans le cadre de cette soirée organisée par le comité de vigilance 69, il y avait un autre collectif qu'on doit citer. C'est des gens qui travaillent depuis un certain nombre d'années pour dénicher un certain nombre de d'informations, d'intox, de détournements et de manipulations auxquels on se livre allègrement sur ces sites. C'est le collectif s'appelle les débunkers de hoax, les démonteurs de rumeurs. Donc c'est un travail intéressant qu'ils font depuis un certain nombre d'années et on peut aller sur leur site pour voir un petit peu ce qu'ils font, d'autant que c'est aussi il y a un certain nombre de liens qui permettent de se faire une idée de ce qui sort dans la presse quotidienne. Parfois il y a un ensemble d'articles intéressants qui peuvent sortir dans la presse quotidienne et qui peuvent nous permettre d'avoir une vision, je pense à Rue 89, Mediapart ou d'autres, qui peuvent nous permettre de nous faire une idée un petit peu critique sur ce qui se passe. Alors la fachosphère, effectivement, c'est un espace relativement dense, d'une nébuleuse, on va dire, d'un certain nombre de sites, blogs et autres, qui s'apparentent à l'extrême droite. Voilà, alors donc il y a un certain nombre de chiffres qui sont cités, entre 500 et 600. Il existerait aujourd'hui entre 500 et 600 sites qui se décomposent parce qu'il y a des courants à l'intérieur différents. Hein. Bon, c'est vu de l'extérieur, évidemment, il y a un certain nombre de postures et de points de vue idéologiques qu'ils partagent, mais à l'intérieur, il y a tout un nuancier de positions. Alors, vous avez des traditionalistes qui sont plus proches de la défense de la France, la vraie France. Des sites un peu intégristes de tendance catholique et également des sites antisémites. Alors, ce qui est important, alors pourquoi il faut en parler ? Il faut en parler pour plusieurs raisons, parce que d'abord c'est un des éléments importants de l'activisme d'extrême droite. Au fond, peu de militants d'extrême droite vont sur le terrain, font du militantisme traditionnel comme on a l'habitude de pratiquer sur la gauche, se rendent directement dans les quartiers et vers les gens, mais par contre ils ont investi extrêmement tôt le média internet. D'ailleurs il faut avoir l'esprit que le Front National a été le premier parti en France en 87 à avoir un site internet, et c'est pas pour rien. Alors, donc investir la toile internet, ça a pour objectif évidemment de diffuser au plus large possible la propagande qui est la leur, de la rendre accessible, mais surtout en la masquant. Alors c'est aussi pour ça que ces sites sont très efficaces, c'est qu'ils parviennent à masquer leurs véritables objectifs et à être visité par un ensemble de gens. Alors, on peut tomber d'ailleurs sur ces sites tout à fait par hasard, parce qu'on est en train de chercher une information, on a vu une vidéo sur YouTube, etc. Voir des prises de position de personnes qui sont plutôt à gauche, et on va circuler, et on peut se trouver chemin faisant sur un site d'extrême droite, parce qu'on y reprend beaucoup et très fréquemment des propos, alors sans les reprendre directement à son compte, mais en les citant, en les mettant, par exemple, des entretiens, alors de gens qui peuvent être classés à gauche de façon évidente, voilà, dont on reparle. Alors ces sites, ils sont efficaces pour ça, et leur efficacité, elle se mesure aussi à la place qu'ils occupent dans la hiérarchie des sites les plus visités de France. Alors il y a un site qui s'appelle Alexia.com qui répertorie ça, et parmi les sites d'extrême droite qui sont particulièrement cités ou particulièrement visités, on peut citer le site d'Alain Soral qui s'appelle Égalité et Réconciliation, qui est le 530e site le plus visité de France. Également F de Souche, c'est le pseudonyme de François de Souche. Alors juste pour la petite histoire, il est dit juste dessous le titre de F de Souche, pour présenter un petit peu le site, il s'agit des pérégrinations d'un Français de souche dans le Paris occupé. Évidemment, c'est pas occupé lors de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est occupé par les immigrés, bien sûr.
Mais alors, c'est vrai que moi, je remarque dans ces sites-là, F de Souche, Égalité et Réconciliation, les plus connus, c'est les sites qui sont plutôt bien faits. Mais c'est vrai que dans la multitude de sites dont tu nous parlais au début, en disant qu'il y en a quand même beaucoup, il y en a tout un tas qui sont quand même très moches, très pourris, qui datent encore des années 90, justement parce qu'ils ont été conçus il y a bien bien longtemps, qu'ils n'ont pas été mis avec un nouveau développement, une nouvelle interface, parce que derrière, c'est justement, comme tu le dis, un gars, une nana, derrière son ordinateur, qui répand ses idées et sa prose virulente. Mais voilà, il y a toutes sortes, hein, moi je trouve, de sites, ils sont tous très très différents, à la fois dans le contenu, mais aussi dans l'approche. Et c'est aussi pour ça que ça peut toucher tout un tas de gens, des gens de tout âge, hein, des gens plutôt jeunes avec qui vont avoir une belle interface et qui vont craquer pour ça. Les sectes ont exactement le même fonctionnement. Et puis des gens peut-être plus âgés qui vont se reconnaître dans des trucs un peu plus basiques aussi. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses, et je trouve que cette multitude-là, elle est aussi importante à prendre en compte.
Ouais, ce qu'on peut remarquer aussi sur ces sites, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le drapeau nazi, quoi. C'est ils avancent vraiment masqués. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ces sites-là, qui ne connaît pas, un petit peu novice, il tombe dessus. Il peut facilement pas saisir au départ que c'est vraiment des sites d'extrême droite qui véhiculent des idées nauséabondes.
Absolument, absolument, tout à fait. Alors donc, parmi les choses qu'on a essayé de communiquer dans la soirée, peut-être une des choses qui est intéressante, c'est le travail qu'ils font sur l'information. Alors tu as évidemment tout à fait raison de dire qu'il y a effectivement, les sites ne sont pas tous les mêmes, ils ne fonctionnent pas tous de la même façon, mais il y a des sites leaders qui accaparent une grande partie qui sont souvent mis en lien dans les sites plus anciens, etc. Donc Nouveau Presse, Polemia, F de Souche, Égalité et Réconciliation, qui ont pour particularité d'avoir effectivement un petit nombre de militants, mais qui sont extrêmement actifs. Alors que les informations sont, si vous y allez d'une heure sur l'autre, elles ont déjà été modifiées, c'est vraiment très très alimenté. Alors le travail qu'ils font sur l'information est très intéressant, parce que dans la confusion et dans le travail de manipulation qu'on peut essayer de décrire, c'est intéressant de porter l'attention sur ça. Alors donc, ils font un travail de ce qu'ils appellent, eux, de réinformation, qui consiste à reprendre des informations, au fond, du grand public. Alors aujourd'hui, on n'a qu'à puiser dans ce qui est dit par les médias, on va dire dominant, Vincent en parlera peut-être tout à l'heure, sur un certain nombre de thématiques que le Front National ou les sites d'extrême droite n'ont qu'à reprendre. Il suffit de se baisser pour en ramasser à la pelle. Alors par exemple, les questions de faits divers, les questions d'insécurité, d'immigration qui sont, ou d'islam, hein, qui sont bien sûr le fond de commerce. Alors comment ils pratiquent le fond de commerce de ces sites d'extrême droite, comment ils pratiquent concrètement? Ils reprennent ces informations. Voilà, donc ils surfent au fond sur la vague de ce qui est l'actualité du jour ou de l'actualité ou les breaking news de la période. On peut penser par exemple aux réfugiés syriens, et ça fait évidemment un buzz énorme dans ces sites. Alors voilà, pour donner une illustration un petit peu, voilà ce que j'avais trouvé sur F de Souche pendant la période où on était au tout début de l'arrivée des réfugiés syriens en Europe, la série des petits articles. Alors, ce qui est intéressant intéressant, c'est qu'au fond, ils font pas un travail véritablement d'information, ils font un travail de montage d'information, de reprise d'information, ils mettent un chapeau, ils mettent un titre, et puis un commentaire, et l'objectif, c'est évidemment de détourner et de focaliser de façon un peu obsessionnelle l'attention toujours sur les mêmes thèmes. Alors voilà la série des titres qu'on pouvait trouver ce jour-là. Paris, deux points, Anne Hidalgo souhaite la venue aux immigrés en arabe. Premier titre, j'y reviendrai. Soupçon sur le père d'Ilan Kurdi, passeur, ivre. Alors, le Ilan Kurdi, c'était le petit garçon de 3 ans qui avait été retrouvé noyé et dont la photo a fait, quand sa tentative de passage entre la Turquie et la Grèce, la photo a fait le tour du monde. Merkel Juncker, le grand remplacement, c'est maintenant, c'est forcé et c'est open bar. Les réfugiés, cheval de Troie des islamistes en Europe, etc. Alors, tout ça, c'est intéressant à citer parce qu'au fin de compte, ça s'appuie sur ce dont on parle et ça vise à toujours incriminer, bien entendu, les immigrés et ceux qui en sont, du point de vue des hackers ou des geeks de la fachosphère, qui en sont les soutiens. Alors, par exemple, Anne Hidalgo qui se commet et qui s'abaisse, le maire de Paris s'abaisse à parler aux immigrés dans leur langue. Voilà.
Alors, ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce titre-là est très différent d'un autre, c'est-à-dire que quand on nous parle d'open bar, tout de suite là, on entend le sarcasme, on entend l'attaque. Quand on nous dit Anne Hidalgo souhaite la bienvenue aux immigrés en arabe, ça sous-entend que tous, c'est censé nous choquer. C'est-à-dire que c'est pas dit textuellement, c'est pas dit oh, la salope, elle. Vous voyez, j'y vais un peu exprès, excusez-moi, hein, mais je vais vous choquer. Non, c'est vraiment. Voilà, c'est induit, c'est. C'est dans le titre. C'est très révélateur de cette pratique et de cette manipulation dont tu nous parles.
D'accord. Je terminerai juste pour dire ça. Ce qu'effectivement, ils sont passés maîtres dans l'art de l'insinuation et du sous-entendu. Et c'est aussi pour ça qu'ils évitent aussi d'être condamnés pour comment on appelle ça Enfin, en tout cas, il est condamné par la loi pour appel à la discrimination raciale. Je ne me rappelle plus de la formulation.
Voilà, haine, incitation à la haine.
Voilà, merci, Laurent.
Oui, alors juste pour redire, parce que tu as cité des grands noms, il y a aujourd'hui des sites qui sont confusionnistes, on va dire, et moins sur la fachosphère, mais qui vrillent petit à petit sur la fachosphère. Je me rappelle du site lescrises.fr, et ils sont aidés, parce qu'il faut quand même le dire, par des grands hommes de médias, des gens qui sont invités partout, et qui eux aussi commencent à vriller. Hein, c'est ce qui se passe sur la fachosphère est en train de se répandre, moi je trouve, puisqu'on a des hommes politiques qu'on pensait être de gauche, des hommes politiques, des hommes un peu qu'on voit un peu partout, des philosophes, des économistes qu'on pensait être de gauche, et qui d'un seul coup sortent des trucs où on se dit eux aussi sont contaminés. Donc on peut se dire que c'est peut-être grâce ou à cause plutôt de cette fachosphère qu'eux aussi ils commencent à basculer du côté de l'extrême droite.
Ouais, puis c'est vrai que les réseaux sociaux, en particulier avec des outils comme Twitter, ça favorise la petite phrase, ces fameuses petites phrases. C'est facile, c'est condensé, on va vite, et puis on peut même en écrire 3 de suite en ayant la même idée et le même regard, et c'est toujours aussi horrible à lire. C'est vrai que ça participe aussi à tout ça. Les trolls, dès qu'il y a des commentaires sous les articles, il faut aller voir ceux du Monde et du Figaro, je crois que c'est ceux qui ont les pires dans la presse écrite sur Internet, c'est absolument horrible. Vraiment, on a des commentaires de fachos, quoi. C'est tout simple. Sur le Figaro, on peut appuyer sur alerter. Sur le Monde, il faut être inscrit pour pouvoir alerter quand on lit des commentaires qu'on peut trouver virulents et justement être haineux sur la race, la religion, des propos homophobes. Sur le Figaro, il suffit de cliquer. Je vous invite à cliquer quand vous lisez des choses pas jolies. Ça participe aussi à dire au Figaro, vous avez de la merde sur votre site.
Alors, dans la série, donc, les médias et l'extrême droite, là, on va plutôt s'intéresser du côté des médias dominants, qu'on connaît bien, et comment eux, finalement, ils servent ou ils servent pas, tu vas nous dire, d'ailleurs, finalement, la soupe aux idées et à l'extrême droite.
Et oui, servent-ils ou ne servent-ils pas la soupe ? C'est vrai qu'on entend beaucoup dire dans nos discussions, même parfois dans des discussions entre gens de gauche et sensibiliser sur ces questions, que les médias entraîneraient mécaniquement une montée du Front National ou participeraient à la popularisation des idées du Front National. Alors dire comme ça, de but en blanc, que les médias favorisent la montée du Front National, c'est un petit peu abusif. Si le Front National est aussi... Moi, je parle plutôt du Front National, hein, pas tellement de la fachosphère ce soir... Si le Front National est aussi populaire qu'il l'est aujourd'hui, c'est pas avant tout grâce aux médias, c'est avant tout grâce quand même à tout un tas, enfin grâce pardon,
à
cause de tout un tas d'autres causes, je pense notamment aux causes économiques et à la situation sociale et au désespoir face à la situation politique qui existe actuellement chez beaucoup de mes femmes en France et ailleurs d'ailleurs. Mais du coup, on peut pas s'en tenir simplement à cette réfutation. Effectivement, les médias ont bien un rôle, certes minoritaire, mais un rôle néanmoins effectif dans la popularisation de certaines idées du Front National, et ce par plusieurs procédés, plusieurs dynamiques que j'ai sommairement listées. Tout d'abord, la personnalisation et la peopleisation de la vie politique qui conduit finalement plus à s'intéresser, comme tu le disais, en reprenant les petites phrases de Twitter ou en reprenant les petites expressions lâchées ça et là par les grands leaders politiques, et ben de s'intéresser plus à la forme qu'au fond, et de la même manière de davantage s'intéresser à la manière dont Marion Maréchal Le Pen ou Florian Philippot dîne avec telle ou telle personne ou de la façon dont ils s'habillent que finalement du programme qu'ils tiennent et qu'ils soutiennent lors des différentes élections. Alors, premièrement, je pense que la peopleisation et la personnalisation contribuent à dépolitiser les propos des hommes politiques, mais c'est pas le seul phénomène. Les grands médias, les médias dominants, par leur débat raccourci, ont tendance à créer des débats politiques qu'on peut appeler, qu'on peut dire mutilés. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, tout simplement que dans un débat, dans les grands médias, soit on est pour, soit on est contre, soit on est blanc, soit on est noir, soit on est de gauche, soit on est soit on est de gauche, soit on est de droite, soit on est pour, soit on est contre, ce qui est différent. Un exemple tout bête, le débat sur la construction européenne actuellement, le débat sur la construction européenne est résumé entre les pro-européens d'un côté et les anti-européens d'un côté. Et finalement, dans les anti-européens, on mélange dans un seul bloc des gens qui sont des critiques de gauche de l'Union européenne telle qu'elle est menée actuellement et contre le libéralisme européen, et d'autres qui sont des militants d'extrême droite qui proposent finalement une vision de la société qui n'a rien du tout à voir avec les autres entre guillemets anti-européens. Pareil sur la question économique, entre les hétérodoxes et les orthodoxes économiques. Les hétérodoxes, ce sont les protectionnistes, ce sont les nationalistes. Et donc finalement, ceux qui contestent, ce sont les extrêmes droitiers. Et donc, cette construction de débat politique mutilé met toujours en avant le Front National et donne le beau rôle au Front National. Et je donnerai un dernier processus dans cette petite schématisation. La construction médiatique de figures qui suscitent la haine, qui suscitent la peur et qui sont en fait totalement compatibles avec les discours du Front National. Je m'explique. On a toutes les semaines, voire même tous les jours, une question dans les médias ou un problème avec la sécurité, l'immigration, l'islam. Et donc la construction de ces problèmes, en fait, est complètement compatible avec la construction des problèmes tels que la propose le Front National. Donc dans, par exemple, le problème sur la sécurité, on s'intéresse aux voleurs de scooters et jamais aux évasions fiscales. Le débat sur l'islam, entre guillemets, par exemple, on crée deux camps, un nous, qui serions évidemment pas musulmans, plutôt blancs, etc. Et un eux, donc, qui serait irréductible à leurs opinions religieuses, à leurs origines nationales, etc. Et donc finalement, on pose les problèmes dans des termes qui sont finalement les termes dans lesquels les problèmes sont posés par le Front National, entretenant finalement l'idée selon laquelle le Front National poserait les vrais problèmes, poserait les bonnes questions, mais y répondrait d'une mauvaise façon, comme si la façon dont on pose les problèmes ne véhicule pas largement la façon dont on y répond. Voilà, donc c'est trois, bon c'est un peu taillé à la hache, hein, mais les trois lignes de force, je pense, qui aujourd'hui dans le fonctionnement des grands médias favorisent la montée du Front National, donc la dépolitisation de la vie politique, l'analyse des personnes et des petites phrases plus que des idées, et la construction de débats publics compatibles avec les propos du Front National.
Et on est toujours beaucoup dans le raccourci et dans le facile, hein, même dans cette presse qui pourtant est toujours dominante, comme tu le disais au début. Hein.
On va quand même citer le petit journal que sort Lacrimed au niveau national, on va dire, puisqu'il y a eu un numéro spécial qui s'appelle « Médias et extrême droite ». Donc vous allez nous expliquer comment on peut le trouver. Ça s'appelle, donc le titre, c'est « Médias critiques avec un S ».
Oui, alors effectivement, c'est la revue trimestrielle de notre association qui reprend, mais tout en prolongeant, les articles qui sont publiés sur le site d'Acrimed. Donc elle s'appelle Média Critique et vous pouvez trouver la référence sur le site.
Sur l'Acrimed.
Sur Acrimed, oui, absolument.
Voilà, impeccable.
Acrimed.org.
Voilà, j'allais dire aussi le site internet. Nous, on était contents de vous avoir avec nous, puisque nous, par malchance, on n'avait pas pu venir à cette soirée. Donc, c'était bien aussi pour nous de pouvoir lui donner une suite. On espère pouvoir vous retrouver bientôt pour une autre série d'entretiens, puisque au cours de cette saison, on espère vous accueillir plusieurs fois. Voilà, auditeurs et auditrices, nous vous informons dès maintenant. Comme ça, vous êtes obligés de revenir nous voir. Vous voyez, ça y est, c'est acté.
C'est officiel.
C'est officiel.
Merci.
Merci à vous.
Merci Delphine et Laurent.
Donc on va poursuivre l'actualité. Je crois que c'est toi Delphine qui poursuit avec l'Arabie Saoudite et les droits de l'homme.
Oui, je voulais revenir sur la situation d'Ali Al-Nemer. Hein. Vous avez tous et toutes entendu parler de ce Saoudien qui devait être exécuté aujourd'hui. Alors je vous avoue que là actuellement je ne sais pas où on en est. Il a 21 ans, hein, c'est tout jeune, je vous rappelle les faits, il avait 17 ans, il est allé à une manifestation, c'était en 2012, contre le régime dans la région de Qatif, c'est une région plutôt chiite, il est lui-même chiite, et en plus de ça, il a le malheur d'être le neveu d'un homme qui est un opposant à la monarchie en place, c'est le cheikh Al-Nemer. Cet homme est condamné à mort, il a été condamné à mort l'année dernière. Alors, il y a eu tout un tas de réactions, bien évidemment. Nous avons entendu notre cher François s'offusquer de cette situation, comme bien d'autres à travers le monde et en France.
Oui. Bizarrement, il s'offusque moins quand les États-Unis, le Texas par exemple, assassine officiellement, c'est-à-dire pratique la peine de mort. Mais là, bon, je crois que internationalement, ça a été tellement repris qu'il n'avait pas le choix.
Oui, hein, vous avez parlé de ce blogueur, ce militant Raif Badawi en prison. Lui aussi a subi la répression. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Arabie Saoudite se débrouille bien. Elle se débrouille bien hein, puisque les gouvernements se rendent en Arabie Saoudite en espérant signer des contrats. Et à côté de ça, l'Arabie Saoudite arrive à s'installer, l'air de rien, dans des situations très démocratiques. Puisque depuis lundi, il y a quand même une petite polémique. Hein,
C'est une énorme polémique.
Oui, oui, tout à fait. Ah bah oui, l'Arabie Saoudite à la tête du groupe consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Oui, ça fait polémique.
Comment un pays qui pratique officiellement la discrimination homme-femme, mais alors discrimination, ça doit être le pays sur Terre, sur la planète, où il y a le plus de discrimination sur les femmes.
Ouais,
ils
n'ont
rien le droit de faire.
Il n'y a pas le droit pour les opposants, il y a une répression
sur l'homosexualité,
des blogueurs,
c'est pareil.
La presse ramasse, enfin bon, voilà, c'est une situation compliquée. Alors c'est l'ambassadeur de Riyad hein, auprès des Nations Unies, monsieur Faisal Trad, qui va présider ce groupe. Alors c'est un groupe consultatif, c'est-à-dire que normalement ils ne prennent pas vraiment des décisions, on dit plutôt que les décisions elles sont prises autour de ce groupe consultatif, vous voyez c'est ça aussi la démocratie. Ce Conseil des droits de l'homme il est souvent attaqué parce que justement il a des fonctionnements pas très transparents, voilà c'est une double facette hein, pour l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'il y a la facette internationale, voilà au Conseil des droits de l'homme, fréquentable pour vendre tout un tas de choses. Et puis à côté, il y a cette répression constante. Voilà. Mais ça n'a pas l'air effectivement de gêner tellement François. Hein. Il fait des petites déclarations très très faciles.
Ah bah, il était coincé. C'est quand même le seul qui a été invité récemment par les réunions où il y avait l'Arabie Saoudite dans cette région du monde. Effectivement, il y a plein d'enjeux commerciaux. Mais d'ailleurs, les critiques, elles sont relativement sobres hein, de la part de tous les pays. Il n'y en a pas un qui dit on arrête toutes les relations économiques et diplomatiques avec l'Arabie Saoudite. Il n'y en a pas un qui a le moindre petit bout de courage politique. Bien évidemment, il y a trop d'enjeux économiques. Et donc, voilà, il se plie. Voilà. Mais moi, ce que je trouve enfin, triste, c'est vraiment que on mette en avant que l'Arabie Saoudite pratique la peine de mort, alors que c'est un pays qui, c'est pas le pays qui la pratique le plus, hein, même si ils l'ont.
Ils défendent bien, hein, Laurent. Quand
ils sont un peu moins de 100 par an, hein. Ben par rapport à peu près 2000 pour la Chine, on se dit qu'il y a une marge de manœuvre. Les États-Unis sont assez proches d'ailleurs de l'Arabie Saoudite. Enfin voilà, sur la peine de mort, la lutte, elle devrait être systématique pour tous les pays qui assassinent avec leur bras armé qu'est la justice une partie de leur population, et pas du tout d'un seul coup faire un truc sur l'Arabie Saoudite et oublier que au Texas c'est pareil, que voilà, plein d'endroits dans le monde c'est pareil.
Puis je vais poursuivre avec la Tunisie, avec un étudiant qui a été condamné à un an de prison ferme pour homosexualité par un tribunal du centre-est de la Tunisie. Alors, il a fait appel avec son avocate, hein, tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était en début de mois, le 6 septembre. Il est interpellé et interrogé suite à la mort d'un autre homme. Cet homme avait son numéro de téléphone, hein, il en faut peu aujourd'hui quand même, pour être interrogé et arrêté. Là-dessus, a priori, il a été quand même pas mal bousculé, excusez-moi. Donc, il finit par reconnaître qu'il a eu une relation amoureuse et sexuelle avec cet homme. Et là, patatras, ça se retourne contre lui et il y a un nouveau procès-verbal qui est rédigé contre lui. Il est soumis à un examen anal et donc il a été condamné à un an de prison ferme. Alors évidemment, les ONG locales en Tunisie ont réagi plutôt vivement. Il faut dire qu'elles se battent, hein, contre ce que ces ONG appellent les tests de la honte, hein, ces tests, voilà, c'est cet examen anal que subissent ces hommes. Elles espéraient, enfin beaucoup, hein, quand même, de ces ONG, de ces organisations, espéraient que avec la nouvelle constitution, et eh ben la protection de la vie privée allait être enfin respectée. Mais ben, c'est pas le cas, hein, puisque là c'est typique, c'est un exemple. Elle sert à rien, cette nouvelle constitution. Très franchement, tout le monde s'assoit dessus. Reste que l'homophobie est très importante en Tunisie et que la justice donne un coup de pouce à cette homophobie.
Alors on va revenir un petit peu sur le Burkina Faso. Je sais que le Kenya Info hier on a un petit peu parlé, mais comme on en avait pas mal parlé la semaine dernière, je vais revenir dessus. La semaine dernière on n'avait pas encore les mouvements et les morts, hein, puisque finalement la journée du coup d'état donc la semaine dernière, qui a eu lieu le jeudi donc il y a 7 jours très exactement, le 17, avait fait pas mal, enfin une dizaine de morts a priori, donc des gens qui étaient descendus dans la rue suite à l'appel notamment des groupes là qui essayent de faire changer les choses dans cette région d'Afrique, hein. Mais aujourd'hui, donc vous avez appris aujourd'hui ou hier que le putschiste Gilbert Djendéré donc a lâché le morceau. Alors ça s'est passé en fait entre mardi et mercredi et une réaction assez surprenante parce qu'on s'y attendait plus. C'est l'armée officielle, l'armée régulière, qui a marché sur la capitale. Et en même temps, il y avait les négociations à la CDAO notamment, et tout ça a fait que les putschistes du RSP, je vous rappelle, le RSP c'est le corps d'armée, à peu près 1300 hommes qui servaient à la sécurité de Blaise Compaoré, donc qui était très proche de l'ancien dictateur président qui avait été éjecté il y a à peu près un an, ben voilà, ils ont lâché suite à ces différentes pressions. Gilbert Djendéré a dit que c'était vraiment une bêtise qu'ils avaient fait, enfin voilà, il a fait une espèce de mea culpa. En tout cas, les putschistes ont ratifié un accord qui prévoit donc leur retour dans leur caserne et le retour de Michel Cafando dans ses fonctions de président intérimaire le temps que les élections arrivent, qui était prévu le 11 octobre, mais pour l'instant la date est plus tout à fait sûre, hein, vu les événements. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle que cette transition démocratique soit de retour, mais bon, l'accord signé, on ne sait pas s'il va être respecté, mais l'accord signé prévoit de garantir officiellement donc la sécurité des membres du RSP et de leurs familles, et de faire reculer les troupes de l'armée royaliste à 50 km de la capitale. Donc on fait comme si c'était rien passé. Ce qui a été signé, c'est ça. On oublie ce qui s'est passé. Hop, tout le monde rentre chez soi et voilà. Mais en même temps, dans l'accord, on demande aussi au Congrès pour le progrès et la démocratie donc le parti de Blaise Compaoré, de pouvoir participer aux élections. Or, dans la transition, dans les éléments politiques qui ont participé à la chute de Blaise Compaoré et à la transition qui a été mise en place depuis un an, ils avaient ratifié le fait que les anciens n'avaient pas le droit de se présenter. Alors vous allez me dire, c'est pas très démocratique de dire à un parti, vous êtes interdit. Sauf que c'est bien ce qu'on a fait avec les nazis après la guerre. Hein. Donc il y a quand même, on peut comprendre que après avoir subi de nombreuses années de dictature de Blaise Compaoré, quand ils arrivent enfin à se débarrasser du dictateur, aux premières élections, le parti du dictateur et les amis du dictateur n'ont pas le droit de se présenter. Hein. C'est peut-être un peu extrême et on peut se dire, voilà, ils auraient pu leur laisser une chance, mais ça se comprend et voire, c'est presque logique quand même, hein, parce que le régime de Blaise Compaoré a été tout sauf un régime sympathique pour la population, même si ce n'était pas le pire de la région. Donc, pour l'instant, ce qui a été signé, c'est pas très clair. Donc, les questions qui restent, finalement, c'est que va devenir ce fameux RSP, là, ces 1300 hommes. Les autorités de la transition avaient voté 2 jours avant le coup d'État la suppression de ce RSP qui devait être intégré à l'armée. C'est sûrement une des raisons qui a déclenché hein, le coup d'État. Bon, pour l'instant, on ne sait pas bien ce qui va se passer, vu ce qui a été signé. À un moment, il faut qu'ils se débarrassent de cette milice, hein, puisque aujourd'hui, c'est une milice qui est encore officielle. Le problème se pose aussi sur l'amnistie. Ça paraît difficile quand même d'amnistier les putschistes qui sont responsables d'une dizaine de morts, hein, suite aux manifs, aux manifestants de la semaine dernière. Des centaines de blessés lors de ces manifs donc dans la capitale à Ouagadougou. Donc ça, c'est quand même des questions qui se posent. Et puis, il reste le problème sur l'enquête sur Thomas Sankara. Parce qu'il y avait quand même ça qui avait été lancé par les autorités de transition, je vous rappelle l'histoire, hein, enfin je ne vais pas vous refaire tout le truc, mais Thomas Sankara, énorme héros, enfin héros maintenant, mais énorme quand même militant de la cause révolutionnaire en Afrique et donc au Burkina, se fait assassiner pour permettre à Blaise Compaoré de prendre le pouvoir. Et dans ceux qui auraient participé à l'assassinat, bizarrement, il y a le général Djendéré qui a pris le pouvoir dans le coup d'État, là. Et ils avaient relancé, les autorités de transition, enfin, des enquêtes. Il y a officiel hein, de la justice avec constitution de partie civile, il y a notamment la veuve Myriam Sankara, la veuve du commandant Sankara. De faire enfin le jour, la vérité sur l'assassinat de Thomas Sankara. Et ça, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont continuer cette action en justice avec le risque qu'un nouveau coup d'État arrive? Parce qu'ils vont pas se laisser faire. Parce que le RSP, il y a encore des gens qui ont, il n'y a pas que le chef, hein, Gilbert Djendéré, il y en a d'autres qui ont sûrement participé à cet assassinat. Alors, on sait qu'en plus, ils sont pas aidés, hein, puisque en France, il y avait eu une demande officielle de certains parlementaires, aux parlementaires, d'ouvrir une commission d'enquête, parce que il y a des archives en France, forcément. Et la France a dit non, les élus ont dit non. Alors qu'on le sait, hein, que l'assassinat de Thomas Sankara n'a pu être fait qu'avec l'aide des États-Unis d'Amérique et de la France. Donc voilà, la question reste posée pour l'instant et on attendra d'ici quelques jours, quelques semaines pour savoir sur toutes ces questions ce que vont faire les autorités de transition. Bon, peut-être que leur principal objectif, là, ça va être d'organiser les élections peut-être en octobre ou en novembre, et après continuer les changements hein, pour transformer le Burkina Faso en une démocratie un peu plus égalitaire, parce que ça part quand même d'assez loin.
Avec 34 agents de surveillance sur 37 en grève mardi, le musée d'Orsay n'a pas pu ouvrir ses portes.
C'est pas sympa quand même pour les gens qui vont visiter le musée, qui veulent se cultiver.
Hier
ah oui, c'est
plus.
Pas ça qu'il fallait que je
les
dise.
Les portes n'ont pas ouvertes.
Bah oui.
Et non, hier non plus. Alors, a priori, à un moment, la direction de musée avait tenté d'ouvrir partiellement des salles d'exposition. Finalement, cette direction, elle y a renoncé. Alors, il faut dire qu'il y avait un mardi un préavis de grève qui avait été déposé par la CGT du musée d'Orsay. Et ça tombait pile poil le premier jour de l'exposition Splendeur et misère, images de la prostitution 1850-1910. Date bien choisie, bien évidemment. Alors, motif du mécontentement, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ouverture en continu, l'ouverture 7 jours sur 7, décrétée par le ministère de la Culture. Pour l'instant, c'est en direction des scolaires. Alors, comme le Louvre et Versailles, le musée d'Orsay doit ouvrir en continu dès le 2 novembre prochain. C'est une des décision qui a été prise pour permettre d'améliorer l'accueil des publics et renforcer l'accessibilité des œuvres selon le ministère de la Culture. Et puis bien entendu, peut-être aussi augmenter un petit peu les bénéfices. Alors c'est une mesure qui avait été souhaitée par M. François Hollande au début de l'été 2014, hein, donc ça commençait un petit peu à dater cette décision. Finalement, c'est une mesure qui ne concerne que les scolaires, je vous le disais. Dire qu'il y a eu un audit qui a été fait et l'audit indique que s'il y avait une ouverture plus importante, ça amènerait une hausse des coûts que le musée ne pourrait pas supporter. Donc pour l'instant, ça ne concerne que les scolaires. Ce que les grévistes et les syndicats critiquent, c'est que tout ça, ça a été fait à la hâte. Finalement, hein, comme d'habitude, on a des bonnes idées au gouvernement et on veut les appliquer tout de suite maintenant. Alors déjà, les grévistes et les syndicats, ils ont un petit peu peur du manque de moyens, hein, comme toujours.
Ah oui, parce que quand on ouvre un jour en plus, il faudrait du personnel en plus. Ça va compliquer les choses, hein, puisque c'est forcément un jour où les personnels se reposaient aussi. Donc il y a plein d'impacts social, on va dire, sur une ouverture d'un jour de plus. Et vraisemblablement, ça a été un peu minimisé.
Ouais, et puis alors surtout que eux, ils aimeraient rappeler les travailleurs et les travailleuses du musée d'Orsay, c'est que le lundi, il y a de l'activité dans le musée, c'est-à-dire que c'est un jour de maintenance.
Ils mettent les expos notamment, voilà.
Enfin, c'est un jour de maintenance, c'est-à-dire que ben il y a des réparations dans un musée, il faut parfois déplacer des œuvres. Donc cette journée sert aussi à ça.
Ah mais et non, alors... bah, là maintenant ils feront la maintenance la nuit.
Ah, alors ça, écoute, c'est bien évidemment que je crois pas qu'ils soient d'accord avec cette proposition. Écoute, et puis alors, surtout, ils s'inquiètent aussi un peu de la conservation des œuvres. C'est parce que ils pensent pas qu'en ajoutant toujours plus de public, ça va leur permettre de mieux travailler. Si jamais, comme tu le disais, il y a pas plus de personnel, il y a pas des meilleures conditions d'accueil. Donc ils sont assez réticents. Alors à côté de ça, le ministère de la Culture et la Direction générale du patrimoine avancent vraiment cette surfréquentation. C'est sur ça. Hein. Qu'il y a vraiment une insistance de la part du ministère de la Culture. Pourtant, quand on regarde un petit peu les fonctionnements des autres musées, parce qu'on nous met en face les musées de Londres et de Madrid, en nous expliquant qu'ils sont ouverts 7 jours sur 7 et que c'est magnifique. Alors, certes, les musées, hein, dont ces trois musées, sont ouverts 6 jours sur 7, soit c'est le lundi, soit c'est le mardi, où il y a une journée de fermeture. Mais par contre, il y a une amplitude horaire qui est très élevée. Donc, ce qui veut dire que quand on regarde un petit peu la masse horaire sur la semaine, ben finalement c'est tout pareil tout ça. Donc on va rajouter une journée de plus qui sera pas ouverte au public, à tout le monde, mais qui sera quand même une journée d'accueil, qui fait que ben, en fait, les musées français vont accueillir beaucoup plus de gens qu'ailleurs. Donc tout ça, c'est un petit peu du mensonge de vouloir nous faire croire qu'en fait, il n'y a pas de capacité d'accueil dans les musées français. C'est toujours cette excuse du touriste, hein, et de l'image de la France dont on nous envoie. Il y a évidemment cette question économique. On pense aussi à la loi Macron en arrière, hein, sur cette question qu'il fallait ouvrir le dimanche pour l'image de la France. Ben là, c'est un petit peu la même idée qui est développée. Alors, ce passage aux 7 jours complets en ouverture doit concerner en fait d'autres musées à terme. C'est-à-dire qu'il y a un rapport qui a été publié en juillet qui suggère de supprimer les jours de fermeture de tous les musées en France, simplement. Ah oui, facile. Mmh. Tu me regardes en secouant la tête, mais je te dis, c'est facile. Alors, pour la CGT, quand même, l'argument des scolaires, il est un peu petit, parce que le syndicat estime que, à terme, c'est un moyen déguisé d'ouvrir aux entreprises et aux groupes privés. Mmh. Hein, il ne faudrait pas se le cacher non plus, hein, je vous parlais d'argent. Bah, c'est aussi un peu des évidences qui sont mises dans ce genre de lieu. Alors, ce matin, il y a eu une assemblée générale du personnel qui a décidé la suspension du mouvement. Il y a un accord qui a été pour l'instant trouvé. Alors c'est un accord en suspens, hein, on peut plutôt le présenter comme ça, puisque au lieu que ça se fasse là tout de suite le 2 novembre, et ben la mesure elle est retardée. Et a priori, la direction du musée, accompagnée certainement par le ministère de la Culture, a promis que tout ça ne serait pas mis en place tant qu'il n'y a pas assez de personnel. Qu'il n'y ait pas des renforts d'effectifs. Oui, ça je pense que c'est un peu sur ça quand même que les syndicats vont être vigilants. Alors c'est très drôle parce que j'ai appris en fait que le musée d'Orsay s'était vu récompensé sur un site de conseil aux voyageurs. Il s'agit, excusez-moi, du site TripAdvisor, qui a été sacré meilleur musée d'Europe. Donc ça a inquiété un peu la direction, toute cette affaire, surtout qu'ils ont très peur que la grève puisse toucher le Louvre et Versailles. Il faut savoir que hier, mardi matin, excusez-moi, il y a du personnel du Louvre et de Versailles qui sont venus à l'Assemblée Générale le matin. Donc ils ont un peu peur de ça, maintenant, la direction. C'est qu'en fait, le mouvement, ils partent ailleurs. Moi, je leur conseille de négocier tout de suite, hein, parce que voilà, c'est la grève de la semaine. Et puis, je voudrais revenir, on va continuer avec la culture, sur Anish Kapoor. On vous en a parlé il n'y a pas très longtemps. On vous a raconté que sa sculpture monumentale, le Dirty Corner, avait été une nouvelle fois attaquée, dégradée. Cette fois, c'était avec des tags à la peinture blanche, des tags antisémites, insultants. Et on vous avait dit d'abord qu'Anish Kapoor avait décidé de laisser ses tags en l'état. C'était la réaction qu'il avait eue, soutenue par la direction du château de Versailles. Et puis on vous avait dit aussi que il y avait un certain Fabien Bouglé, conseiller municipal de Versailles, qui avait décidé de porter plainte contre cette infamie, c'est-à-dire qu'Anish Kapoor puisse laisser les tags apparents. Et alors, c'est accompagné de l'association Avocats sans frontières que Fabien Bouglé a donc déposé sa plainte. Et le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, qui a été saisi vendredi dernier, a estimé que les inscriptions portaient atteinte à l'ordre public et en particulier à la dignité de la personne humaine. Le juge des référés a précisé que des mesures devaient être prises très rapidement pour que ces tags ne soient plus visibles. Donc voilà Anish Kapoor qui, dans un premier temps, avait décidé que ces tags ne devaient pas être tirés. Il avait, dans un deuxième temps, estimé qu'il allait intervenir sur son œuvre, qu'il se laissait le choix de voir comment il voulait s'y prendre, avec quelle technique, je bafouille. Mais l'idée, c'était quand même qu'il puisse se réapproprier son œuvre, sa création, c'est-à-dire quelle que soit sa décision, c'était à lui qu'elle appartenait. Ben là, c'est pas ce que dit le juge des référés.
Du coup, la justice fait exactement comme les taggers. Elle impose, elle va faire effacer, elle va modifier une œuvre d'art comme l'ont fait les taggers. Donc finalement, c'est la justice est aussi méprisable que ceux qui ont tagué ces tags, qui ont fait ces tags antisémites.
Ouais, juste pour très rapidement, vous irez voir vous-même Avocats sans frontières. C'est une organisation qui attaque tout mouvement déclaration antisémite, mais aussi anti-sioniste, puisque c'est le cheval de bataille de cette association. Elle s'est attaquée à plein de gens. Peut-être que ça vous vous souvenez, elle s'était attaquée à Edgar Morin, à Mermet. Il y a eu plein d'affaires hein, assez médiatisées. Donc on était aussi dans une certaine ambiance, il faut le dire, pour ce tribunal administratif de Versailles. Alors, ce qui se passe là, ce qui s'est passé lundi, c'est qu'il y a eu des grands tissus noirs qui ont été pendus autour du Dirty Corner. Anish Kapoor est contraint d'obtempérer. Ils se sont agressés, c'est le terme qu'il emploie.
Donc deux fois, une fois par ceux qui vandalisent son œuvre et une fois par la justice.
Ouais, enfin, je te rappelle qu'il avait en tout, ça a été vandalisé trois fois même, hein, donc ça commence à faire.
Donc c'est la dernière beaucoup, vandalisation est judiciaire.
Alors il a eu une réaction, c'est que il a décidé de travailler son œuvre puisque c'était quand même finalement son intention. Donc il a accompagné d'artisans d'art, décidé de recouvrir une partie de, ces inscriptions antisémites avec de grandes feuilles d'or. Donc c'est un travail assez méticuleux, assez compliqué, parce que c'est vrai que c'est une surface assez particulière, hein, ce Dirty Corner, donc c'est un travail qui est long. Mais il a laissé quelques morceaux apparaître encore, c'est-à-dire qu'il n'a pas tout recouvert, justement, parce qu'il veut laisser une blessure apparente, c'est-à-dire qu'il veut continuer quand même à marquer les esprits, il est obligé de le faire, donc il le fait, et en plus il est obligé de le faire très très vite, puisque sinon l'œuvre était masquée. Donc voilà, l'art contemporain ça a quand même du mal, hein, en France, il suffit de lire, tout à l'heure on parlait de la face...
La fachosphère est particulièrement anti-art contemporain.
Voilà, et très active sur le sujet, et voilà, exactement. Alors je crois que nous allons maintenant pouvoir revenir un petit peu sur cette affaire Volkswagen. Alors,
Das Auto, alors toi t'avais dit Das Pipo.
Alors je vous rappelle, il a été mis à jour que Volkswagen a équipé ses modèles diesel Volkswagen et Audi de 2009 à 2015 d'un petit logiciel qui permet de contourner les tests d'émission de certains polluants atmosphériques. Et tout ça, ça se passe aux États-Unis d'Amérique. Alors, c'est un petit logiciel qui s'enclencherait à l'insu des conducteurs, des conductrices. C'est un mécanisme qui se déclenche qu'au moment du test, c'est-à-dire qu'en fait, le logiciel est capable de reconnaître le texte en cours. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les tests, ils sont normés de partout et que donc les ingénieurs les connaissent parfaitement. Donc ils sont capables de dire au logiciel, ça, là, la voiture, comme elle roule, la manière dont le moteur réagit, dont tout ça fonctionne, c'est que c'est un test. Et donc le petit logiciel ne se déclenchait qu'au moment où il reconnaissait une phase de test, ce qui veut dire que là, dès que la phase de test était terminée...
Ça repolluait normalement.
C'est-à-dire que en même temps, le logiciel arrivait à faire en sorte que la voiture, si vous voulez, pour être vraiment dans la caricature, allait être moins performante, puisque d'un seul coup, le logiciel allait bloquer certaines choses à l'intérieur du moteur. Donc voilà, c'est ce petit logiciel qui est mis maintenant. C'est ce petit calcul moteur. Est-ce que ça a l'air d'avoir surpris tout le monde ? Pas vraiment. Tu peux effectivement faire la moue, Laurent. Ça n'a pas surpris tout le monde. Il suffisait très rapidement de lire la presse économique et dès le premier jour de cette affaire, certains et certaines ont commencé à émettre quelques remarques, disons que finalement, c'était peut-être pas si surprenant que ça se passe comme ça.
Non, mais dans le monde automobile, tout le monde triche depuis des années, tout le monde sait que tout le monde triche. Il n'y a pas une seule mesure que vous voyez sur les pubs avec les polluants émis, avec la consommation qui est vraie, qui est juste, qui est réaliste. Ils font ça dans des conditions qui n'existent pas dans la vraie vie. Tout est faux et faussé, et les États qui légalisent, qui font les lois, le législateur, les contrôleurs, tout le monde sait que c'est entièrement faux, entièrement pipé, que c'est du faux semblant, que c'est juste pour faire du greenwashing sur les voitures et faire croire au peuple que vous polluez moins en achetant une voiture neuve pour que vous achetez plus de voitures neuves et jeter les anciennes voitures. C'est pour ça. Et donc tout le monde joue le jeu dans ce truc-là. Tout le monde est complice. Alors effectivement, là, ils vont un peu plus loin avec un petit logiciel qui permet de tricher pendant qu'il y a des contrôles. Mais grosso modo, c'est toute la structure du monde automobile qui vit sur la supercherie, sur le mensonge. Si vous avez une voiture, ce qui n'est pas notre cas, mais si vous avez une voiture, regardez les consommations que donnaient les constructeurs et regardez ce que vous consommez, vous allez vite comprendre où est le mensonge.
Alors, le groupe a reconnu un dimanche les faits. Depuis, c'est une onde de choc qui s'est multipliée, il faut vous dire. Volkswagen a déclaré aujourd'hui que demain, vendredi, le groupe désignera les responsables de cette grande manipulation.
Ouais, parce qu'ils ont fait sauter le fusible, donc le
Martin Winterkorn, le président du directoire, oui.
Donc on a un fusible, on le fait sauter, il était peut-être au courant, peut-être pas. Pour l'instant, en tout cas, personne ne le sait. Et effectivement, on attend une enquête parce que il y a une grande partie de la hiérarchie qui était au courant, des ingénieurs qui ont pondu le truc jusqu'à un certain niveau de la hiérarchie. On ne sait pas si ça monte jusqu'en haut, parce qu'en général, au directoire, là, c'est plutôt le côté finance qui arrive et pas forcément le côté technique. Mais bon, il fallait un fusible, ils en ont trouvé un. Après, nous, on pleurera pas pour un patron, mais c'est quand même juste un fusible.
Ouais, la petite chose drôle, c'est quand même que monsieur Winterkorn devait voir son mandat, son contrat renouvelé demain vendredi. Ça jusqu'en 2018, donc oui, c'est mort, peux le dire comme ça, tout à fait. Alors, il faut quand même se rendre compte que M. Winterkorn, depuis qu'il était à la tête de Volkswagen depuis 2008, il a vraiment explosé les chiffres, le nombre de voitures vendues, le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, le nombre de marques possédées par le groupe. Donc ils ne le mettent vraiment pas à la porte, à mon avis, pour le plaisir, parce que il a plutôt bien sorti Volkswagen du lot des constructeurs. Alors voilà, Volkswagen n'est certainement pas le seul à tricher. On a déjà El País qui a fait savoir que Seat, qui est une filiale de Volkswagen, avait équipé 500 000 voitures fabriquées avec des moteurs truqués. Donc les choses commencent un petit peu à apparaître. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il pourrait y avoir une grosse amende, puisqu'il y a une loi fédérale sur la pollution par les voitures. La Clean... attendez, je cherche le nom de la loi, je vais pas vous la retrouver tout de suite. L'amende pourrait être de 37 500 dollars par véhicule commercialisé.
Ouais, ça doit faire au moins entre 10 et 20 milliards, quoi.
Ouais, on parle en milliards, et de 10 à 20 milliards, c'est exactement à peu près sur cette somme-là. On parle de 18 milliards dans les calculs. Mais il y en a d'autres qui sont touchés, puisque par exemple, BMW a vu son cours en bourse à Francfort chuter, puisque là, c'est le magazine allemand Autobild qui fait état de tests pas très réussis de la part d'un des modèles de BMW.
Ils ont dit que c'était pas vrai, mais bon.
Alors, évidemment, tout ça, ça va avoir des conséquences sur les ventes, sur la marque. Ce qui est très drôle, moi, je trouve aussi, c'est qu'il va falloir que Volkswagen change un petit peu sa communication, puisque la gamme diesel aux États-Unis d'Amérique est commercialisée avec le slogan « Clean Diesel », le diesel propre, ce qui est déjà assez choquant en soi. Mais alors là, en plus...
C'est là où je dis qu'ils sont tous des menteurs et des escrocs, bien évidemment. Alors que le diesel est interdit dans certains pays, peu, malheureusement, émetteur de particules, ce que ne fait pas l'essence, qui pollue globalement sur l'environnement, mais pas de la même manière, et en tout cas de manière moins pire pour ceux qui respirent à côté de la voiture. Mais bon, voilà, ils sont tous quand même super hypocrites. C'est du greenwashing en permanence, l'automobile. Donc ils essayent d'avoir l'air plus sympa. Faut savoir un truc, c'est que les voitures soi-disant consomment moins et polluent moins aujourd'hui, sauf que la pollution automobile ne fait qu'augmenter. Alors il y a des multiples raisons, notamment les différents effets rebonds. Quand une voiture consomme moins, les gens automatiquement font plus de kilomètres. C'est un effet qui est calculé. Du coup, la pollution est la même. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui font que l'automobile reste une grosse source de pollution. Et le diesel particulièrement.
Ce qui est intéressant, c'est de voir d'où ça vient, toute cette affaire. Vous pensez peut-être que ça vient de l'Agence environnement américaine, l'EPA, mais pas du tout. C'est une histoire qui commence en 2013. C'est l'International Council for Clean Transportation, une organisation non gouvernementale aux États-Unis d'Amérique, qui est spécialisée dans les transports dits propres, qui s'intéresse à la pollution des véhicules, qui se dit on va tester les émissions des voitures diesel. Et l'idée de cette ONG, c'était de prouver une hypothèse selon laquelle, grâce aux normes du Clean Air Act, c'est le nom dont je cherchais, de cette loi fédérale sur la pollution de l'air, les véhicules vendus aux États-Unis sont moins polluants que les autres. C'est sur cette idée-là que sont lancés ces tests.
Ils tombent des nues,
puisqu'ils se sont adressés à l'Université de Virginie-Occidentale pour mener ces tests. Et là, effectivement, catastrophe. Les tests révèlent des taux très impressionnants. Cette organisation qui a été fondée en 2005, qui est financée principalement par une autre ONG, Climate Works Foundation, va voir l'agence environnementale américaine avec ses résultats, avec ses preuves. À côté de ça, il y avait la CARB, qui est une autre organisation qui avait fait des tests en laboratoire. Il faut savoir que l'ONG, elle a fait des tests en situation réelle.
Voilà, pour une fois, c'est réaliste.
C'est là où c'est intéressant. Et donc, ils ont remis tous ces tests à l'EPA, et c'est là que l'EPA a décidé d'ouvrir son enquête. Donc, ça part en fait plutôt d'une bonne intention à la base, et l'intention, elle s'est un petit peu retournée contre Volkswagen. Alors, bon, évidemment, il y a des réactions un petit peu de partout, en Allemagne en particulier, où là, ça c'est un peu une grosse crise, quand même. Volkswagen qui triche, ça passe pas bien. Il y a le Guardian qui a réagi. Alors, je n'ai pas réussi à avoir plus de précisions, surtout plus de preuves sur ce qui est avancé par le Guardian. Je vous rappelle que c'est un journal anglais. Le Guardian annonce que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne auraient fait pression sur la Commission européenne pour conserver l'ancien test de pollution, c'est-à-dire pour ne pas changer les normes et les méthodes actuel. Pourtant, son test de pollution est réputé moins efficace. Donc, le Guardian accuse tout simplement le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne d'avoir permis à l'industrie automobile de minimiser son impact sur l'environnement et de pouvoir continuer à être des pollueurs.
Bah oui, et la France, à travers certains constructeurs, notamment Peugeot, ont toujours fait l'apologie du diesel, alors que c'est un moteur beaucoup plus polluant. Donc, effectivement, la France intervient au nom de l'État pour aider ses entreprises en faisant baisser les normes.
Oui, parce que Madame Ségolène Royal est intervenue.
Oui, non, mais elle a été ridicule, puisqu'elle a dit qu'elle allait faire des tests sur les voitures. Alors elle aussi, elle véhicule l'idée que les voitures modernes pollueraient moins qu'avant, mais la pollution globale étant la même, ça ne sert à rien. Enfin voilà, de toute façon, elle n'y connaît rien et puis elle a peu de notions d'écologie et encore moins technique. Mais donc voilà, elle fait ses effets d'annonce pour faire croire que, grosso modo, derrière, oui, mais les constructeurs français, eux, ils sont bien, alors qu'ils sont comme les autres.
Voilà. Et puis si vous avez une Volkswagen diesel et vous n'êtes pas content, vous pouvez vous rendre jusqu'au 28 septembre à Eurexpo. Puis est-ce qu'il se tient le salon automobile de Lyon, et que j'ai vérifié sur leur site internet, Volkswagen est bien censé avoir un stand. Allez donc vous plaindre, hein. Écoutez, il paraît qu'ils vont même présenter une nouvelle bagnole. Je ne sais pas s'il y aura du diesel.
Bah, il y a forcément du diesel dans le monde moderne. Voilà. On va faire une petite fin d'information autour du nucléaire. Avec la confirmation de François Hollande, hein, qui a repris le discours qu'avait dit Ségolène Royal sur la fermeture de Fessenheim. Donc, on rappelle, hein, il s'était engagé à fermer Fessenheim en 2016, c'est-à-dire l'année prochaine. Donc, la plus vieille centrale nucléaire française. Et ben, il a confirmé ce que disait Ségolène Royal, c'est que ça sera reporté à fin 2018, quand il sera plus là. Du coup, on ne sait même pas si ça fermera un jour. Enfin, il paraît qu'ils vont faire des décrets avant pour être sûr, mais enfin voilà. C'est quand même un beau mensonge. Mais le mensonge a une belle justification. C'est qu'ils ne veulent pas baisser la quantité d'énergie électrique fournie par le nucléaire. Donc quand on ferme Fessenheim, il faut qu'on démarre une autre centrale. Et l'EPR de Flamanville, vous savez, c'est la centrale nucléaire la plus chère du moment. L'escroquerie, hein, d'Areva et d'EDF pour une centrale, hein, qui va coûter presque trois fois plus cher que ce qu'elle était vendue au départ, ne peut pas se mettre en route avant fin 2018. Du coup, ils attendent la fermeture, enfin le démarrage de celle-là pour fermer l'autre. Parce qu'il n'est pas question de baisser l'offre du nucléaire. C'est ça qui est dans la transition énergétique. On va augmenter la consommation énergétique en fournissant d'autres types d'énergie, mais on va surtout pas baisser le nucléaire. C'était un beau mensonge, une belle escroquerie de cette loi de transition énergétique. Alors toujours dans le nucléaire, une autre escroquerie, enfin dans l'environnement, c'est la COP21, vous savez, c'est cette fameuse grosse réunion qui arrive très bientôt à Paris pour parler du climat, hein, et du réchauffement climatique, et du dérèglement climatique. Et là, ils ont besoin pour la conférence d'électricité. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, certains fournisseurs d'électricité ont dit, ben ouais, nous on est prêts à vous vendre de l'électricité. Et notamment, Enercop. Donc Enercop, c'est le fournisseur le seul qui fournit de l'électricité 100% renouvelable, en plus qui socialement est différent des autres, puisque c'est une coopérative. Grosso modo, il y a une centaine de petits producteurs d'électricité qui revendent à Enercop et qui revendent notamment à Radio Canu, hein, puisque Radio Canu est 100% renouvelable au niveau de son électricité. Et donc, ils se sont proposés, ils se sont dit, bah, ça serait un bon argument pour la France, pour montrer l'exemple, en disant, regardez, la COP21, cette conférence, elle est avec de l'électricité 100% renouvelable. Ben, ils ont dit non, ils ont pris EDF. Alors, on s'y attendait qu'ils prennent EDF, hein, c'est une entreprise qui est encore quasi publique, et puis il faut faire toujours la propagande du nucléaire, notamment ça va servir à faire la propagande du nucléaire, hein, le COP21, donc voilà. Alors bien, la réponse c'est aussi financier, parce que EDF, ils viennent pas en faisant payer l'électricité, ils viennent en donnant de l'argent, en finançant, puisque ça fait partie des grosses multinationales de la pollution qui financent la COP21, hein, qui a besoin de 187 millions d'euros. Hein, c'est le coût du sommet. Du coup, la petite coopérative Enercop qui venait juste vendre son électricité symboliquement en disant nous, elle est 100% renouvelable, ils se sont fait mettre de côté. Bien évidemment, cette COP21 est une escroquerie, on en aura confirmation très bientôt. Puisque la France, qui est censée donner l'exemple, fait l'inverse, hein, elle a développé les cars, c'est la loi Macron, contre le train, pour faire baisser qui fera baisser mécaniquement le nombre de trains, alors que les cars polluent quand même beaucoup plus que le train. Voilà, là, ils ont le choix entre de l'électricité renouvelable et pas renouvelable, ils prennent la renouvelable. Alors, dans le mix, hein, EDF, on rappelle, c'est 77% de nucléaire, et contrairement à ce qui est véhiculé, le nucléaire consomme du CO2, hein, émet du CO2, pas dans la réaction nucléaire, mais dans tout le reste, dans le retraitement, dans le transport, dans l'extraction des mines, etc. Donc, c'est pas zéro CO2, contrairement à ce qui est véhiculé par les propagandistes. Il y a 17% de renouvelables. Bon, c'est moins que les 100% d'Enercop, mais c'est 17% de renouvelables. Et 5% qui viennent du charbon, enfin des énergies fossiles. En France, c'est plutôt d'ailleurs fuel et surtout gaz. Donc voilà, c'est ce qui a été choisi par le gouvernement, Ségolène Royal et toute la bande. Bravo les pollueurs. Et puis pour terminer sur ce qu'il y a une info sur le nucléaire, c'est en Angleterre que ça se passe maintenant, puisque le gouvernement britannique a officialisé aujourd'hui son soutien financier à la construction, au projet de construction d'un EPR, l'EPR qui s'appelle Hinkley Point. Donc ils avaient besoin, c'est un consortium avec EDF et des partenaires chinois, du soutien de Londres, enfin du gouvernement, pour que ce projet avance et se réalise. Donc c'est fait, ils amènent 2 millions de livres, hein, puisque c'est de la livre en Angleterre, 2 milliards plutôt d'ailleurs de livres. Ce qui rappelle d'ailleurs que le nucléaire finalement a du mal à exister sans l'implication de l'État, sans l'investissement de l'État. Hein, une petite entreprise qui se montrait comme Enercoop voudrait avoir un réacteur nucléaire, c'est un peu compliqué. Hein, faut dire que là, ils investissent 2 milliards. Grosso modo, une centrale nucléaire aujourd'hui, telle l'EPR, ça doit coûter 7 ou 8 milliards, voire 9 milliards. Effectivement, c'est difficile de le faire. Donc ça démontre une fois de plus hein, que le nucléaire dépend beaucoup des décisions politiques, voire essentiellement, voire totalement des décisions politiques. Donc là, la Grande-Bretagne, à travers son ministre de l'énergie, qui s'appelle Osborne, a annoncé que pour lui, de toute façon, le nucléaire était toujours une source importante d'électricité en Angleterre, à côté des énergies renouvelables et du gaz naturel, avec une belle propagande que le nucléaire n'émet pas de CO2, bien évidemment. Alors, soit il ment, soit il y connaît rien. Je vous laisse choisir la proposition. Ça en émet moins, bien évidemment, que le fioul ou le gaz, mais beaucoup plus que le renouvelable. Bien sûr, il ne parle pas tout ça du retraitement des déchets, de la problématique sécuritaire, etc. Donc voilà, c'est une décision qu'on attendait, hein, et je pense qu'EDF est content d'avoir un soutien financier du gouvernement anglais pour lancer le projet donc d'un EPR en Angleterre. Il est 20h pile.
Eh ben, nous allons vous laisser pour ce soir. On va laisser notre place à la petite cuillère tout de suite. Nous, on se retrouvera évidemment la semaine prochaine. On vous rappelle que sinon, il y a aussi un Canu Info le vendredi, c'est-à-dire demain.
Une fois tous les 15 jours, donc voilà. C'est peut-être demain.
Eh ben, c'est peut-être demain. Non, je crois que c'est la semaine prochaine.
Ouais. Voilà. Oui, je crois aussi. Et sinon, c'est presque tous les jours de la semaine, 19h-20h, sur la plus rebelle des radios. Sinon, vous pouvez aller sur le blog des Canu Info. On vous laisse en compagnie de la petite cuillère. Bye bye.
Ciao.
Bard, Radio Canu 102.2.